Bienvenue à tous à Neurotransmetteurs, une série de balados où nous explorons le sujet complexe mais fascinant des migraines. Je suis votre hôte, Dr. Claude Garceau, interniste à l'IUCPQ à Québec et un passionné de santé. À nouveau, notre Dr. Heather Pym, notre marathonienne des balados, qui travaille à la clinique des céphalées du CHUM. Merci pour cet épisode où nous allons parler du traitement préventif des migraines. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pourriez-vous différencier les deux types de migraines, soit la migraine chronique et la migraine épisodique, parce que ça a quand même un impact dans le choix des traitements?
Oui, bien sûr. En fait, je voulais encore vous remercier, Dr. Garceau, de m'avoir invité à participer à cette balado sur les traitements préventifs de la migraine. Puis, en fait, pour débuter, je pense que votre question est vraiment pertinente. En fait, j'avais glissé un petit mot quand on avait parlé des différents types de migraines, à quel point c'est important de reconnaître l'intensité de la maladie. Okay? Donc, quand on parle de migraines épisodiques, par définition, c'est en bas de 15 jours de migraines par mois. On a tendance à même le sous-diviser, et pas juste pour la recherche, je pense sur le plan clinique, c'est très pertinent. Parce que quand on a une migraine épisodique, on va pas la traiter nécessairement de la même façon. Et par exemple, la migraine épisodique à basse fréquence, qu'on considère 1 à 7 jours de migraine par mois, souvent on va pas opter pour un traitement préventif. Okay? Donc, on peut juste offrir comme une casse-crise efficace et probablement ça va être correct. Sauf si... Si on a 7 jours de migraine ou 6 jours de migraine, mais la migraine, la crise est tellement intense qu'il y a un impact fonctionnel ou que les options casse-crise ne sont pas aussi efficaces qu'on aurait voulu. Ça se peut même à 4, 5, 6 migraines, vous allez vouloir mettre en place une prévention. Donc, pas juste les chiffres absolus, je vous dirais, mais plus l'impact de la maladie dans la vie de chaque patient qui est à considérer. Donc, encore, migraine épisodique à basse fréquence, 1 à 7 jours par mois. Haute fréquence, 8 à 14 jours par mois. Et l'aspect intéressant que je tiens à vous mentionner de cette population-là, c'est que quand on regarde les différents questionnaires sur la qualité de vie et l'impact fonctionnel que la migraine a dans la vie de chaque personne qui en souffre de migraine, on voit que l'impact est aussi grand pour les gens qui souffrent de la forme épisodique à haute fréquence que la forme chronique de la maladie. Donc, juste parce qu'ils sont épisodiques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un gros impact fonctionnel. Et pour en finir avec les intensités, bien, il y a la migraine chronique. Par définition, c'est des céphalées plus que 15 jours par mois. Mais un point important, c'est que pas chaque jour qui est nécessairement d'une intensité d'une migraine telle que définie par les critères diagnostiques. C'est-à-dire que c'est pas chaque jour où la personne va avoir la grosse crise unilatérale, intense, à vomir. Donc, 15 jours en tout de céphalée, mais au moins 8 qui ont les critères de migraine.
On va parler, mettons, peut-être encore de vieilles choses, mais qui sont quand même importantes, des facteurs qui peuvent déclencher la migraine. Quand j'étais jeune, on parlait du vin, le manque de sommeil. Est-ce que c'est encore d'actualité avec les traitements? Est-ce que le patient peut agir pour prévenir la migraine avec des moyens simples?
Absolument. Puis je vous dirais, ça fait partie de les trois principaux volets que j'explique aux patients. C'est sûr que quand les patients arrivent, ça fait longtemps qu'ils sont attendus. Ils sont déçus quand ils partent pas avec une prescription pour casser leur crise. Mais il y a quand même beaucoup de patients qui s'intéressent à leur migraine. Ils veulent savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire qui n'est pas relié à la pharmacothérapie. Et donc, c'est là où on peut parler d'éléments ou de facteurs déclencheurs. Donc, ça fait partie de l'éducation de la migraine. C'est important d'éduquer nos patients sur les déclencheurs, sur leurs déclencheurs potentiels. Donc, on leur demande de vérifier dans les quelques jours auparavant le début de leur migraine. Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial? Est-ce qu'ils ont vécu un gros stress? Est-ce qu'ils ont manqué de sommeil? Est-ce que c'était la grosse canicule puis ils étaient déshydratés? En tout cas, bref, la liste est longue, mais l'important, c'est que la personne concentre sur le début de leur migraine, quelques jours auparavant, y a-t-il du spécial, et voir s'il y a un patron à ça. Et la meilleure façon de regarder, c'est de garder un journal ou une forme de calendrier. L'avantage encore à ça, c'est pas juste contrôler la migraine, mais on implique le patient dans leurs soins. T'sais, leur locus de contrôle redevient dans leur camp. Ça dépend pas tous du médecin puis qu'est-ce que le médecin va prescrire. La personne se sent un peu plus en contrôle. Donc, un volet très important, tout ce qui est non-pharmacothérapie, identifier ces déclencheurs et les noter pour essayer de les éviter.
Nos jeunes sont particulièrement friands, aiment beaucoup leur téléphone intelligent. Puis quand on a une application pour suivre la migraine, c'est toujours très populaire. Donc, il existe de bonnes apps que vous pourriez nous proposer pour que le patient puisse suivre sa migraine sur un calendrier.
Oui, oui, bien sûr. C'est sûr qu'il y en a plusieurs. J'ai mes favoris, là, mais en fait, j'ai mon favori, j'en ai pas plusieurs. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le calendrier canadien de la migraine, ce qui a été mis sur pied par le Canadian Headache Society, encore avec l'aide de mon ex-collègue, Dr. Elisabeth Leroux, qui est assez de bonnes choses. Dr. Leroux, elle est quelqu'un passionné du domaine de la migraine, puis qui a contribué énormément à l'avancement de nos connaissances et en fait qui est présidente de Migraine Canada et c'est ça qui a développé avec une équipe le calendrier canadien de la migraine. Pourquoi j'aime cette application là, c'est que c'est simple. Donc on aimerait avoir un outil qui est gratuit, simple d'utilisation et aussi qui sert de méthode de communication entre le patient et le médecin. Les patients qui m'arrivent avec leur fichier Excel tout coloré avec des emojis, avec des petites faces souriantes et tout ça, c'est des belles couleurs là comme un arc-en-ciel. C'est beau, mais ça prend du temps à comprendre ce que la personne veut dire. Tandis que dans les applications, c'est très, très simple. La personne va mettre un 0 si on n'a pas de céphalée du tout. Il va avoir un code de 1 si c'est légère. Donc, tu sais, ils font tout ce qu'ils ont à faire à la journée, mais ils ont un petit peu mal à la tête. 1, 2 quand c'est modéré. Donc, c'est fort, mais il fonctionne encore. Et une cotation de 3 lorsque c'est sévère. Et en fait, ça crée un sommaire que la personne peut imprimer, donner à leur médecin pour être numérisé dans leur dossier, ou même ça peut être envoyé par fax, par courriel, pour être numérisé. Donc, ça donne rapidement un aperçu du nombre total de céphalées par mois, le nombre de migraines modérées à sévères. La personne peut indiquer aussi si on a pris des traitements, si ça a été efficace, si c'est une femme, si elle était menstruée. Donc, on peut voir des patterns très clairs avec ces genres d'applications-là. Et c'est accessible via le App Store pour Apple ou bien pour Android, le Google Store, c'est accessible également.
Comme le temps file, nous allons parler maintenant peut-être des classes de molécules utilisées dans le traitement de la migraine. Il y en a plusieurs, les bêta-bloqueurs, les tricycliques, le Topamax, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Pouvez-vous nous en parler un petit peu et parler aussi du Valproex?
Oui, oui, avec plaisir. Donc, en fait, je pense qu'avec l'arrivée de nouveaux traitements, il faut jamais oublier qu'est-ce qu'on avait auparavant. Des traitements quand même efficaces, mais parfois un petit peu moins bien tolérés. Et donc, c'est juste parce qu'on a des nouveaux médicaments qu'on va en discuter, là, faut jamais oublier les antidépresseurs tricycliques, comme l'amitriptyline, la nortriptyline. Comme vous avez mentionné, les bêta-bloqueurs, comme par exemple le propranolol, le métoprolol, le nadolol peuvent être des très bons choix. Il y a aussi les autres antihypertenseurs. En fait, moi, j'aime bien le candesartan. Le candesartan nous donne une option de donner des petites doses, comme une moitié d'un 8 mg, juste 4 mg. Et faut pas qu'on oublie qu'on gère habituellement une très jeune population, majoritairement des femmes qui ont souvent la basse pression. Donc, c'est pas évident de donner des antihypertenseurs comme prévention de la migraine, mais ceci dit, des petites doses, comme justement un début avec 4 mg de candesartan et prise le soir, HS, donc le pic de l'effet se voit pendant le sommeil, peut être quand même des options très intéressantes et quand même bien tolérées. Après ça, on a le topiramate, comme vous avez mentionné, donc une option d'anticonvulsivant quand même bien étudiée en prévention de migraines épisodiques et chroniques. Si on commence des très petites doses et on augmente très doucement, souvent cette thérapie est bien tolérée. Mais ce qu'on doit surveiller, c'est un ralentissement cognitif, un manque d'humour. Parfois, ça peut donner des paresthésies dans les mains, dans les pieds. Puis en fait, j'ai sauté un peu vite les antidépresseurs tricycliques, mais les choses à craindre dans ces médicaments-là, c'est la prise de poids, sécheresse buccale, constipation, tous les effets anticholinergiques en fait. Donc, disons que, bon, je peux en parler aussi du valproate, mais je vous dirais que avec l'arrivée de nouveaux thérapies comme des anticorps monoclonaux CGRP, éventuellement les GEPA, à mon avis, un début de traitement préventif pour la migraine, si vous essayez un traitement tricyclique, un bêta-bloqueur ou un autre antihypertenseur et le topiramate, à mon avis, vous avez fait le tour. De nos jours, c'est pas que je donnerais jamais de l'acide valproïque, mais encore, je mentionne que on traite majoritairement des jeunes femmes, souvent en âge de procréer. Donc, de donner de l'acide valproïque qui peut donner des problèmes de tube neural pendant la grossesse, à mon avis, ça serait à éviter et à y retourner seulement en cas vraiment de besoin ou de cas réfractaire. De nos jours, pour avoir accès aux prochaines classes de traitements comme les anticorps, anti-CGRP, la toxine botulinique ou éventuellement les GEPAN, mais les GEPAN, je peux pas vous dire les règles, je les connais pas, mais je pense que c'est de bonne forme d'essayer au moins deux, sinon trois classes de traitement PEROS, comme je viens de mentionner. Et ensuite, si ça fonctionne pas, d'aller vers les traitements plus spécifiques, comme la toxine botulinique ou les anticorps anti-CGRP.
Ma découverte comme interniste, c'est de savoir que ça existait, la toxine botulinique, que c'était efficace, que c'était utilisé, que c'était correct de référer des patients. Peut-être m'en parler quelques secondes de la toxine, de sa place, et puis par la suite, les anticorps monoclonaux qui sont disponibles.
Oui, oui. Donc, en fait, la toxine botulinique a plusieurs indications médicales, comme probablement plusieurs d'entre vous le savent déjà. En fait, ça a été découvert un peu fortuitement, hein, l'utilité pour la migraine, essentiellement les patientes, ou je peux dire même les patients, là, qui ont eu des injections esthétiques, sont revenus pour nous rapporter que les migraines étaient mieux. Et donc, il y a eu des études en bonne et due forme, entre autres une excellente étude en 2010, l'étude PREEMPT, qui a bien documenté les régions les meilleures placées pour faire les injections qui ciblaient les nerfs crânio-faciales. Et de ces études-là, on a vu qu'il y avait une efficacité pour la migraine chronique. Donc, pour les patients qui ont plus que 15 jours de migraine par mois ou plus de 15 jours de céphalée, en fait, ça serait indiqué d'essayer la toxine botulinique comme choix. Bien évidemment, c'est un traitement local, donc très bien toléré et très aidant, surtout quand les patients ont beaucoup d'allodynie au niveau de la tête et du cou.
Et c'est remboursé par la RAMQ avec un patient d'exception. Il existe aussi, comme éditorialiste, un peu des cliniques spécialisées en neurologie, où il y a des cliniques d'injection qui sont bien structurées pour s'occuper de la toxine botulinique dans la migraine. Maintenant, parlons, pour terminer, des anticorps monoclonaux, peut-être?
Oui. Donc, les anticorps monoclonaux, ça fait presque 4 ans maintenant qu'on va les utiliser. Donc, entre autres, l'irinumab, le galcanezumab, le fremanezumab et aussi l'eptinezumab. Qui est approuvé par Santé Canada, puis on va apprendre bientôt comment gérer tout ça. Donc, essentiellement, un anticorps monoclonal, faut pas avoir peur de ça. C'est sûr que quand on pense à une classe d'anticorps, on est un petit peu réticent. Mais en général, là, je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est des traitements plus ciblés envers la pathophysiologie de la migraine. On a parlé un peu du CGRP ou PRGC en français. Et donc, c'est ciblé sur l'action de cette neuropeptide. C'est efficace, mais aussi bien toléré. Donc, si j'avais à vous donner une différence entre les anciens médicaments et les nouveaux, c'est surtout que on a une meilleure tolérabilité. Hein. Il y avait une bonne proportion de patients. En fait, il y avait en bas de 20% de nos patients qui gardaient leurs médicaments préventifs après 1 an, si on se base sur les antidépresseurs tricycliques, les bêta-bloqueurs et compagnie, avec ces nouvelles classes de médicaments mieux tolérés. On espère que nos patients vont garder leur traitement préventif plus longtemps pour mieux contrôler la maladie à long terme. Donc, c'est des médicaments des patients d'exception, sauf pour le frémanizumab, qui était tout récemment, en février 2022, accepté comme médicament d'exception. Mais il faut passer à travers les anciens avant d'arriver au nouveau, mais c'est toujours bien d'avoir plus d'outils dans notre boîte à outils.
Donc, enfin, l'accessibilité vers ces cibles, vers ces traitements qui étaient vraiment réservés à des assurances bien nanties. Et maintenant, parlez-nous des GEPAN. Je pense qu'on termine quelques mots. On peut pas en parler beaucoup, mais je pense que ça s'en vient aussi.
Oui, nous espérons. Donc, des antagonistes PEROS anti-CGRP qu'on devrait avoir plus de nouvelles dans la fin de cette année et l'année prochaine, mais qui devraient également mieux cibler la pathophysiologie de la migraine qu'on connaît mieux de nos jours. Une option PEROS relativement bien tolérée qui devrait être une autre option pour nous éventuellement. Je suggère à l'auditoire de garder un œil sur ça parce que vous allez entendre de plus en plus parler dans la prochaine année sûrement.
Alors, merci, Dr. Pym, d'avoir partagé avec nous votre expertise. Lors d'un prochain podcast, nous l'espérons, nous pourrons parler peut-être des perles cliniques que vous aurez à partager avec nos auditeurs et comment vous abordez le cycle d'essai des médicaments préventifs. Comme le temps file, je remercie à nos auditeurs d'avoir écouté Neurotransmetteurs. Je vous convie à d'autres épisodes qui viendront sûrement bientôt. Complétez vos connaissances et votre intérêt dans ce champ fascinant de la migraine. Merci encore à la générosité, comme on dit avec les artistes, de Dr. Heather Pym, la clinique des céphalées du CHUM à Montréal.